Alors, ce qu'on m'a demandé de faire, c'était de travailler sur cette question du désir de manière conceptuelle. Et comme ce n'est pas quelque chose qui est toujours si évident que ça, ce que c'est que le travail, ce que font effectivement, ce que cherchent les gens qui fabriquent de la philosophie avec des concepts, je voulais commencer par dire quelques mots de ce que c'est qu'un concept. Et justement, souligner que c'est justement pas un terme de la langue simplement. C'est pas parce que vous avez un mot désir ou des mots qu'on peut traduire de langues étrangères par désir que vous disposez tout de suite d'un concept. Parce qu'un concept, c'est un terme qui prend une valeur, sa valeur de concept dans un argument. S'il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de concept. Pour une raison très simple, c'est que les arguments, c'est des choses qui peuvent être vraies ou faux. Un argument peut être vrai ou faux. Une thèse peut être vraie ou fausse. Et qu'un concept, c'est quelque chose à l'intérieur d'un argument. Si vous en modifiez le sens, si vous en modifiez la signification, alors l'argument, au lieu d'être vrai, devient faux. Si vous n'avez pas d'argument, si ces arguments ne peuvent pas être vrais ou faux, vous n'avez pas de concept. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que lorsqu'on se pose la question de savoir s'il y a un concept du désir dans la Grèce antique ou bien chez les Chinois, etc., on ne peut pas y répondre directement. Si vous ne voyez pas comment les gens se servent d'une certaine notion pour défendre un certain type d'idée en formulant des énoncés qui peuvent être vrais ou faux, et si vous analysez pas ce qui compose ces énoncés qui les rendent vrais ou faux, vous pouvez pas savoir si vous avez quelque chose qui ressemble à un concept du désir. Et c'est pas, par exemple, parce que vous avez un mot qui ressemble, comme desire, par exemple, en anglais, à désir en français, si vous avez pas son usage dans des arguments, il y a aucun moyen de savoir si c'est le même concept ou bien si ce sont des ressemblances apparentes et éventuellement des choses qui n'ont aucun rapport. Et donc, lorsqu'on parle de s'entendre sur les mots, de savoir ce que c'est que le désir, c'est extrêmement difficile de savoir. Il y a des tas d'auteurs, par exemple, qui vont employer à la place de désir, appétit, parfois qui vont donner à volonté une signification conceptuelle qui est celle du désir, ou à désir une signification qui est celle de la volonté. Si vous n'avez pas leurs arguments, en fait, vous ne pouvez pas savoir de quoi on parle. Et donc, les concepts, c'est une chose qui est très troublante pour les gens qui n'ont pas l'habitude de cette manière de fonctionner, de penser. Un concept, ce n'est pas quelque chose qu'on définit. Ça ne sert à rien de définir un concept, parce que tant que vous n'en avez pas l'usage dans un argument, votre définition, elle n'est pas du tout opératoire. Il faut non seulement dire ce qui est le contenu d'un concept, mais aussi expliquer comment vous vous en servez pour rendre vrai ou fausse un certain nombre de thèses. Voilà. Alors, justement, une des questions essentielles, c'est que c'est pas parce que vous avez le mot désir, le terme de la langue désir, qui est un grand classique, si j'ose dire, presque un grand concept, comme je l'ai écrit sur mon papier, j'ai mis des majuscules. En philosophie, il y a un autre terme, un grand concept avec deux majuscules en psychanalyse, que vous avez pour autant le même concept. Et c'est ça qui est tout à fait troublant, c'est qu'il y a une quantité absolument désespérante de travaux qui s'amusent à prendre le terme en dehors de ses usages conceptuels et argumentatifs dans ces deux corpus de savoir, où il y a des tas de choses qu'on défend, auxquelles on s'oppose, etc., et au motif que c'est le même mot, en le superposant, de faire comme si on pouvait passer de l'un à l'autre. Et c'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles un certain nombre de gens, comme moi, par exemple, sont totalement hostiles à des critiques philosophiques de la psychanalyse, que ce soit celles qui peuvent venir de certains courants scientistes ou au contraire complètement anti-scientistes, aussi bien, si vous voulez, l'épistémologie que Deleuze, par exemple, ou tout simplement parce que vous avez le mot désir, indépendamment, et que le mot apparaît, on dit, voilà, la psychanalyse a déformé le sens du désir, parce que le désir, c'est ceci, cela, chez Spinoza. En fait, si on n'a pas le tissu d'arguments dans lequel les choses s'insèrent, il n'y a aucune espèce de raison de croire que ce que, par exemple, Deleuze appelle le désir, ça a le moindre rapport avec ce que Lacan appelle le désir. Et c'est là, parce que le mot est le même et que certaines phrases se ressemblent, qu'on va pouvoir l'avoir. Alors, ce que je dirais pour essayer de bien caractériser les deux espaces de discours à l'intérieur des choses, se distinguent, quand vous avez la notion de désir en philosophie, c'est systématiquement rapporté à la question de la volonté et de la liberté. C'est-à-dire, est-ce que les passions, parce que le désir, qui est une passion, empêche que nous soyons libres, comment est-ce que ça fait échouer, notamment, la volonté morale. Lorsque vous ouvrez le chapitre désir dans un texte de psychanalyse, Le désir dont il est question, c'est le désir en un sens très particulier, au sens, par exemple, ça serait sensible en français, mais ça ne l'est pas dans d'autres langues. Quand vous dites le désir, c'est le désir sexuel, en général, le désir sensible, le désir. Est-ce que les médicaments du désir, hein, n'est-ce pas, on comprend très bien que ce n'est pas du désir pour la glace au chocolat, hein, dont il s'agit quand on emploie désir au sens absolu en français. Il y a des tas de langues où ce n'est pas le cas. Enfin, en tout cas, c'est un peu dans ce sens-là que ça fonctionne. Hein. C'est rapporté donc au désir sexuel et rapporté à quelque chose de très particulier à l'intérieur du désir sexuel dans la psychanalyse, à l'explication des symptômes. C'est dans quelle mesure y a-t-il du désir dans l'explication des symptômes, et l'échec de la volonté qui est référé au désir, c'est pas l'échec de la volonté morale. Hein. Je voulais faire le bien, mais ma nature mauvaise et mes penchants égoïstes m'en ont détourné. Hein, c'est à la fois moral et souvent très théologique dans la tradition philosophique. C'est la question de l'échec pathologique de la volonté. Comment peut-il se faire que je veux faire ceci et que je fais exactement le contraire, n'est-ce pas ? Comment je sais qu'il faut surtout pas que je fasse un bruit, sinon mon enfant va se réveiller et qu'est-ce que je fais ? Je fais claquer ma langue. C'est un exemple de Freud. Et comme je sais faire claquer ma langue, j'en profite. Alors, le problème du désir, donc comme un grand concept comme ça, c'est qu'évidemment, la philosophie faisant partie de la grande culture, de la haute culture, les réflexions philosophiques sur le désir, avec un D majuscule, surabondent. Et que elles surabondent dès le départ, ne serait-ce que parce qu'il y a quelque chose dans le désir qui nous incline, et ça c'est quand même un des traits esthétiques de toutes les pensées du désir, à en faire une du désir avec un D majuscule, n'est-ce pas, sur lequel j'essaierai à la fin d'avoir un petit peu d'ironie, en se demandant si ça vous arrive, vous, de désirer avec un D majuscule, moi j'ai du mal. Mais bon. En tout cas, le désir avec un D majuscule, ça existe hein, dans les traditions culturelles auxquelles nous appartenons. Et en particulier comme une sorte de projection cosmique de nos élans intérieurs. Les philosophies philosophie qu'on appelle la philosophie analytique, hein, qui est une philosophie qui s'intéresse souvent beaucoup plus à la façon dont très finement les usages de ces mots peuvent être beaucoup plus variés, complexes et contradictoires les uns avec les autres, et justement échappent à ces espèces de philosophie à majuscules, dans lesquelles le désir avec un D majuscule, par exemple, sert à projeter des choses que nous appelons comme ça confusément nos élans, nos appétits, sur, par exemple, un mécanisme de l'univers. Une grande image de ce genre est présente dès l'étymologie du mot désir. Hein. Pour ça que l'étymologie est souvent significative, non pas du contenu conceptuel de quelque chose, mais des usages, des grands usages imaginaires et culturels, des grandes représentations. En fait, désirer, d'après les étymologies ordinaires, ça vient de desiderare. Hein, et si dans desiderare, vous reconnaissez sidérer, hein, le verbe sidérer, qui renvoie lui-même à une racine qu'on a dans des mots comme sidéral, n'est-ce pas, qui renvoie aux étoiles. Desiderare, sidérare, c'est contempler, et desiderare, c'est cesser de contempler. L'origine du mot désir, c'est donc hein, de ce déverbal qui apparaît, d'après les livres que j'ai consultés, au XIe siècle. Vous voyez, c'est quand même un déverbal assez tardif. C'est donc cesser de contempler, qui est devenu constater l'absence de quelque chose. Hein, c'est utilisé dans la langue, le latin médiéval, le haut français, comme constater l'absence, et ça glisse, hein, comme ça, de cesser de contempler à contempler l'absence, et de contempler l'absence à tendre vers l'objet qui manque. Alors, ça m'amuse beaucoup parce que le rapport aux astres n'est pas du tout un rapport anodin. En fait, il y a un motif aristotélicien de l'explication du cosmos et du fonctionnement du cosmos qui est, comme vous le connaissez peut-être, pour en avoir entendu parler dans vos classes de philosophie, l'idée que tout dans la nature est mu par quelque chose d'autre. Et que si donc quelque tout bouge dans la nature, il faut bien que de niveau en niveau de choses qui se meuvent les unes les autres, vous arriviez à un premier moteur, hein, qui met en branle, comme dit Montaigne, n'est-ce pas, l'ensemble du mécanisme de la nature, et notamment, comme se le représentent les anciens et tout l'univers, tout le monde occidental avant Galilée, avant Copernic, avant les astronomes de la Renaissance, n'est-ce pas, vous avez le monde en dessous de la Lune, n'est-ce pas, en général c'est le chaos, ça va dans tous les... Hein. Au-dessus de la Lune, ça commence à devenir de plus en plus régulier, et puis quand vous montez de sphère en sphère, n'est-ce pas, vous avez des mouvements parfaitement circulaires, réguliers et mathématiques, jusqu'à ce mouvement parfait de la sphère des fixes, qui sont les étoiles qui constituent la couche ultime extérieure du monde. Alors, qu'est-ce qui fait tourner tout ça? Puisque chacune de ces sphères fait tourner celle qui est incluse, et puis, avec une sorte de dégradation qualitative du mouvement, ça arrive chez nous, où effectivement, nous, ça ne tourne pas rond, hein, c'est pas, ça peut aller dans tous les sens, tandis qu'au sommet de la perfection du mouvement, ça tourne parfaitement rond, hein, et ce sont les astres dans le ciel qui tournent parfaitement rond. Eh bien, tout tourne organisé par un mouvement qui est le rapport à ce premier moteur qui met en branle la machine du cosmos. Et la question que se pose tout le monde, n'est-ce pas, c'est comment est-ce que, puisqu'il y a action et réaction, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas faire tourner quelque chose sans vous-même être en quelque sorte freiné, ralenti par la chose que vous faites tourner, comment le premier moteur peut-il faire tourner tout le reste? Comment peut-il être un premier moteur qui lui-même n'est pas mu, hein, et ne subit aucune espèce de mouvement? Alors la réponse aristotélicienne, elle est très connue, hein, de la pensée médiévale, c'est une réponse par Dieu. Hein. C'est Dieu qui est celui qui est le premier moteur et qui met en mouvement toutes les sphères, des plus parfaites aux moins parfaites, et puis des moins parfaites jusqu'à ce qui se passe chez nous, et qui est ainsi le principe, le premier moteur non mu de l'univers. Et alors, comme tout tourne autour de ce premier moteur, et en particulier c'est lui qui met en branle la sphère des fixes, hein, c'est une sorte de... Alors c'est, par exemple chez saint Thomas, il y a la grave question de savoir comment les anges font pour mettre en mouvement, là, parce que c'est pas Dieu qui met la main, hein, là-dessus, c'est les anges qui font tourner la sphère des fixes, qui communique ensuite son mouvement qui va se dégrader jusqu'à nous, hein, provoquant les saisons, notamment, parce que vous rendez bien compte que c'est le soleil, la lune, l'alternance du jour et de la nuit, donc les saisons, donc le mouvement de la vie, donc l'animation, hein, qui dépend de ces mouvements des astres, etc. Comment se fait-il que, se posent très sérieusement les gens, comment peut-il mouvoir sans lui-même être atteint par ce qu'il meut? Eh bien, la réponse, c'est par amour. Parce que, effectivement, lorsque nous désirons et lorsque nous aimons, eh bien, nous sommes mis en mouvement par un objet qui ne bouge pas. C'est-à-dire que c'est le désir qui sert d'analyseur, de concept, pour penser le rapport de la chose qui est mue à la chose qui ne bouge pas elle-même, mais qui fait bouger vers elle tout le reste. Et donc, on est obligé de penser que le rapport, finalement, qu'ont les étoiles à Dieu, c'est un rapport de désir et d'amour. Et alors, question ironique posée par certains docteurs médiévaux, c'est quand même étonnant. Alors, si n'est-ce pas, tout aime le premier moteur, tout tend vers le premier moteur qui lui-même ne bouge pas, n'est pas atteint par le mouvement des choses mues et de la nature, pourquoi toutes ces choses, eh bien, ne se jettent-elles pas sur le premier moteur, n'est-ce pas, dans une sorte d'écrasement, hein, une sorte d'appétit qui viendrait comme ça se fixer sur les choses, hein. Et comment, justement, pourquoi elles ne se jettent pas dessus? Comment se fait-il que tout continue à tourner? Et effectivement, c'est une question, n'est-ce pas, comment ce désir peut-il rester un désir éternel, n'est-ce pas, et une tension qui fait tourner les choses? Je vous raconte cette histoire qui vous donne une petite idée, n'est-ce pas, de pourquoi les gens peuvent considérer que l'astronomie et l'astrologie, c'est la même chose, jusqu'à Galilée, hein, puisque tout résonne, tous les êtres, c'est pas du tout c'est une représentation absolument ordinaire de la conscience cultivée avant Galilée, hein, de considérer qu'au fond tout résonne d'harmonie, de proportion, de entre le fini et l'infini, le ce qu'il y a en dessous de la Lune et ce qu'il y a au-dessus de la Lune, et ainsi communique avec une représentation affective, parce que tout simplement le désir, l'amour, les tendances et les élans que nous avons, tendance à localiser à l'intérieur de notre corps et dont nous considérons que nous les projetons sur les choses, mais pas du tout pour les gens jusqu'à le XVIe siècle, c'est une puissance cosmique. C'est une puissance cosmique. C'est la même puissance cosmique qui fait bouger les astres, qui fait pousser les plantes, qui rapproche le mâle et la femelle, et qui anime les déplacements des astres dans le ciel, qui commande la foi et le mouvement naturel des créatures vers Dieu, et qui explique pourquoi il ne saurait y avoir, bien évidemment, quoi que ce soit, comme un athéisme au sens moderne, qui est quelque chose, c'est inconcevable à proprement parler. C'est l'ensemble des représentations indique ce premier moteur non mu vers lequel tendent toutes les créatures. Donc vous voyez ainsi que le désir est lié à vraiment cette espèce de projection cosmique à l'intérieur duquel c'est tout un monde dont nous avons tort de croire que nous le comprenons à première lecture, le monde des gens du Moyen-Âge, le monde des gens de la Renaissance qui est là. Alors, il y a beaucoup comme ça de survivance mythique du désir. C'est pour ça que je parlais de Deleuze tout à l'heure, c'est cette espèce de façon de penser chez Bergson aussi, certains choses comme l'élan vital. Non, mais il nous est extrêmement difficile de nous débarrasser ou de considérer que nous avons vraiment tourné la page d'un désir qui serait une sorte de puissance cosmique, qui ne serait pas spécifiquement humaine, qui ne serait pas la projection de nos tendances ou de nos instincts, mais qui serait simplement... on ne le sait pas très bien. En tout cas, vous voyez, le désir avec un D majuscule, c'est quelque chose qui est extraordinairement profondément ancré à l'intérieur de nos représentations, surtout dans cette dimension de projection cosmique. N'est-ce pas ? Nous avons ça dans la langue et la littérature. Alors, il y a deux grands problèmes que la philosophie s'est posée à l'égard du désir, lorsque, justement, elle a essayé un petit peu d'articuler ces notions et peut-être, au fond, d'échapper à cette représentation légendaire ou mythique du désir. Ces deux grandes difficultés, la première, elle est très simple, c'est comment le désir s'articule à la volonté. Et les choses que je désire, ou je sens un désir en moi passivement. Et puis, il y a le fait qu'il y a d'autres choses que je peux vouloir. Et donc, j'ai l'impression, j'ai un sentiment comme ça d'activité, qui fait que le contraste entre ce que je veux et le désir qui monte en moi me paraît constamment intuitif. Comment les deux choses s'articulent? Ça, c'est la première grande question philosophique. La deuxième... excusez-moi, je suis un peu convalescent. La deuxième question, c'est de savoir... c'est une question qui est un héritage de la problématique théologique que j'abordais tout à l'heure. C'est de savoir si c'est le désirable qui suscite le désir, s'il y a des choses qui sont désirables en soi, et étant désirables en elles-mêmes, elles causent mon envie d'elles, par exemple, est-ce que le gâteau au chocolat, ou bien la Vierge Marie, c'est des choses qui suscitent en moi un désir de consommation, désir d'imitation, parce qu'il y aurait quelque chose dans la Vierge Marie ou bien dans le gâteau au chocolat qui serait intrinsèquement bon et qui ferait que mon désir se rapporterait à ces objets qui peuvent être de toutes sortes, parce qu'il y a de l'intrinsèquement bon et c'est l'intrinsèquement bon qui suscite le désir. Ou bien est-ce que c'est l'inverse? Ou bien est-ce qu'au contraire, ce que j'appelle bon, c'est ce que je désire. Ce dont nous avons aussi assez communément l'expérience, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce que nous appelons bon, ce que nous avons tendance à trouver bon, eh bien, c'est tout simplement ce que nous désirons, ce dont nous avons envie. On commence par avoir une envie, et ensuite on trouve ça, on appelle bon l'objet de nos envies. C'est pour ça que nous sommes souvent si en peine de dire ce qu'il y a de si bon que ça dans les choses que nous désirons, parce que nous éprouvons du désir, puis ensuite on est éventuellement capable de produire un discours extrêmement sophistiqué pour expliquer que c'est bon, et qu'éventuellement c'est parce qu'on dit que c'est bon qu'on en a envie, mais c'est sur le mode de la justification de quelque chose qui est d'abord une tendance qui nous a porté vers les choses. Alors, touchant au premier point, c'est-à-dire le rapport à la volonté, ce qu'on a toujours dans la tradition philosophique depuis Platon observé très simplement, c'est que il n'y a de désir chez les êtres sensibles. Si vous n'avez pas de sensibilité, si vous n'êtes pas impressionné, si vous ne subissez pas une impression des sens, votre désir pour ce que vous avez ressenti, hein, que vous voulez retrouver, que vous voulez amplifier, n'est-ce pas ? Donc il faut mémoire et imagination, n'aurait aucune espèce de signification. On ne peut pas imaginer de désir chez quelqu'un ou chez un être, par exemple, qui n'aurait aucun corps, aucune chair, aucune sensibilité, aucune capacité de subir quelque chose comme une passion, une attirance, dont il ressentirait, parce qu'il faut la ressentir, cette attirance, d'abord, dans le fait qu'il est un être sensible. Et c'est en ce sens que le désir est toujours causé en moi. Si je n'étais pas un être sensible, qui, par exemple, aime bien les pommes, eh bien, j'aurais évité bien des ennuis, n'est-ce pas ? On n'aurait pas pu me tenter. S'il n'y avait pas quelque chose qui puisse en moi me toucher au niveau de ma sensibilité. Et l'agir libre, l'agir véritablement libre, dit la tradition philosophique, c'est quelque chose qu'on peut au contraire très bien envisager chez quelqu'un qui n'aurait aucun corps, un ange, Dieu, etc. Hein? Dieu peut avoir des volontés, on ne le voit pas avoir des désirs. On ne le voit pas subir quoi que ce soit, et lorsque son amour, par exemple, l'amour qu'il est censé éprouver pour sa créature, est un amour qui a toujours des prédicats, c'est-à-dire des déterminations très particulières, l'amour de Dieu, puisque c'est un amour qui ne peut pas procéder du fait que la créature l'affecte ou lui fait quelque chose, puisqu'il la dépasse absolument. Hein. C'est un amour qui est entièrement effusif chez Dieu. Chez la créature finie, c'est plus complexe, n'est-ce pas ? La volonté, elle est possible, mais elle est toujours articulée au fait qu'il y a du désir. Alors, une expression très simple et très vigoureuse de cette vie se trouve chez Descartes, enfin, chez les passions, que Descartes décrit. Les passions, la passion primitive, dans le traité des passions, qui est le premier traité philosophique à mettre l'accent sur les passions de l'homme. C'est l'homme, hein, qui est dans... C'est pas les passions de la créature, c'est pas les passions de l'être raisonnable, c'est pas les passions de quelque chose d'abstrait, c'est les passions de l'homme, hein, dont il est question. Eh bien, il dit, la première, celle par laquelle on est bien obligé de commencer, c'est ce rapport immédiat qu'il appelle l'admiration à nos objets. Première chose, la passion la plus élémentaire, la passion dont tout le reste, qui si elle n'est pas là, on peut, c'est d'admirer. L'admiration est une passion stupide d'ailleurs, parce que bien sûr il faut une certaine capacité d'admirer pour pouvoir s'ouvrir aux choses, mais ceux qui ne sont capables que de rester béats, n'est-ce pas, devant les choses, ça, chaque chose les impressionne tellement, pas qu'ils restent béats, sont des brutes, hein, comme dit Descartes, hein, c'est-à-dire il faut que ça bouge un peu. Hein, bon. Enfin, il faut quand même que ça commence par ce rapport qu'il appelle l'admiration. Et puis ensuite, c'est pas encore le désir, il dit c'est l'amour ou la haine. C'est-à-dire que à l'égard de ce qui se présente, il y a un jugement de valeur qui est posé. Hein. Ce jugement de valeur qui est que j'aime ou que je déteste. Et c'est seulement après ce jugement de valeur que commence la passion du désir chez Descartes, hein, qui ne se rapporte au monde et aux choses qu'une fois ces choses, si j'ose dire dans le vocabulaire pédant de la philosophie morale, une fois que ces choses sont valuées, c'est-à-dire qu'on leur a donné une qualité qui les rend désirables ou au contraire répugnantes, qu'on les aime ou qu'on les déteste. Et le désir va être d'aller vers ce qu'on aime ou de fuir ce que l'on est, hein, dans un mouvement, hein, vous voyez, qui est vraiment très, très décalé par rapport à la première expérience des choses, puis à la position de la valeur affective de ces choses, amouraine, et ensuite du désir qui est d'aller vers ce que j'aime ou ce que je déteste. Or justement, Descartes a cette profondeur et cette originalité de bien marquer qu'en fait, nous ne sommes actifs, nous ne sommes des agents, nous sommes des gens qui agissons, que parce que nous sommes des patients, c'est-à-dire des gens qui subissent, et que nous n'avons d'action que là où il y a des passions, que nous ne pouvons absolument rien faire, qu'une action, un homme d'action, dit Descartes, c'est quelqu'un qui n'est d'autant plus un homme d'action qu'il est capable d'avoir les plus grandes passions possibles. Puisque qu'est-ce que c'est qu'être un homme d'action? C'est simplement agir, hein. C'est faire activement. Et au nom d'un plan et d'un jugement de la raison, ce que nous sommes capables de ressentir comme étant ce que nous devons faire. Autrement dit, hein, il ne faut surtout pas, dit Descartes quand il pense à l'éducation, il ne faut surtout pas empêcher les gens d'avoir des passions. Ce qu'il faut faire, c'est de leur permettre ces passions, de les transformer en actions. Par une sorte de jeu de mots très, très constant chez Descartes, n'est-ce pas? Plus je peux avoir de passion, plus je peux avoir en même temps d'action. Parce que je peux, par un jugement éclairé de ma raison, retourner ces passions que je subis en occasion pour moi de vivre d'autant plus fort et d'autant plus activement ma sensibilité, mon enracinement dans un corps et l'ensemble de toutes les choses avec lesquelles je peux être mis en relation par mes passions. Et donc, Descartes, comme vous avez peut-être entendu dire, Descartes est quelqu'un qui n'est surtout pas un adversaire des passions. C'est vraiment, en ce sens, c'est un moderne. Hein. Descartes, c'est celui qui va dire que les passions sont positives en soi parce qu'elles peuvent être retournées en moyens d'action. Et donc, il y a chez Descartes une réhabilitation fondamentale des passions et du désir. Et notamment du désir parce que c'est dans la mesure même où je peux avoir de grands et de puissants désirs que je peux exercer d'autant plus fort et avec d'autant plus d'intensité ma liberté, ma volonté plus exactement, et cette volonté comme puissance de l'âme est fonction justement de ma capacité aussi à ressentir toutes sortes de passions. C'est quelque chose qui a tout de suite été perçu comme extrêmement original chez Descartes avant de traiter les passions de l'âme. Parce que il y a un mythe philosophique qui a été évidemment récupéré par toute une représentation chrétienne théologique, qui est très bien exprimé dans le Phèdre de Platon, qui donne aux passions, justement, un poids entièrement négatif. C'est-à-dire que les passions et le désir est quelque chose qui nous empêche de devenir libres. Alors ce mythe du Phèdre, qui est souvent commenté, hein, je vous le rappelle, c'est également l'âme, hein, dont le circuit est décrit du monde sensible au monde intelligible comme la course d'un char traîné par des chevaux. Et l'âme est ce cocher qui tient les chevaux, qui tient la bride courte aux chevaux. Et les chevaux s'élèvent comme ça vers le monde intelligible. Et à un moment, ces chevaux qui représentent les désirs sensibles, des chevaux sont des chevaux rétifs, n'est-ce pas? Et ils provoquent la chute du char de l'âme, parce que cette chose qui peut, par une exaltation qui est en général rapportée dans les interprétations allégoriques, n'est-ce pas, à l'exaltation de la poésie, à l'exaltation de la rhétorique, à l'exaltation des passions bien utilisées pour faire accéder l'âme aux réalités supérieures, n'est-ce pas, à un moment deviennent incontrôlables et provoquent la chute de l'âme dans le monde sensible. Et ce cycle, n'est-ce pas, fait que les âmes bien-nées réussissent comme ça à percevoir le monde intelligible, à s'élever au-dessus du monde sensible vers le ciel, et que même les plus, c'est pas, même les âmes les moins douées pour cet exercice voient à la lisière du ciel des idées, du ciel des perfections, ils voient au moins une idée, hein, il y en a une que tout le monde voit au moins, qui est l'idée du beau. C'est pour ça que même les imbéciles sont sensibles à la beauté, dit Platon, parce que c'est la seule chose qu'ils voient avant que le char de leur passion les entraîne vers l'abîme. Mais il y a quand même un dernier clin d'œil comme ça qu'ils peuvent apercevoir, c'est quelque chose. La première idée, celle qui est à la lisière, c'est l'idée du beau. Alors évidemment, ce qui leur échappe, c'est tout ce qu'il y a au-delà, l'idée du vrai, l'idée du bien, etc. Même les imbéciles ont accès à la beauté. Et ensuite, leur char, comme ce sont des gens enlisés dans leur corps et leur passion, le char dégringole très rapidement vers le monde sensible. Alors, ici, vous voyez, vous avez une représentation du désir qui est dans cette allégorie qui a été incroyablement commenté, développé. Il y a des penseurs qui ont donné une signification au nombre des chevaux, à la forme. Enfin bon, hein, c'est une représentation très extrêmement, une allégorie qu'on peut développer à l'infini. Le désir est l'irrationnel. Hein. Le désir, c'est ce qui empêche l'exercice de la raison. Et bien sûr, c'est par là qu'il communique directement à la folie et au mal. Alors, voilà un peu la question. Est-ce que lorsque je veux quelque chose, c'est une question extrêmement simple, extrêmement naïve. Quand je dis que je veux quelque chose, quelle est la part de désir qu'il y a dans ce que je veux? Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait différent, ce que je mets en mouvement quand je dis que je veux quelque chose, par exemple, que je veux aller jusqu'au bout de cette conférence, sans dire trop de bêtises, par exemple, si je veux ça? Est-ce que c'est quelque chose que je peux considérer comme étant un combat contre mon penchant irrésistible à attendre l'heure du dîner parce que je n'ai pas dîné, ou mon penchant irrésistible à faire des plaisanteries, ou des choses? Est-ce qu'il y a un combat qui se livre entre la partie rationnelle de mon âme qui essaie de contrôler tous les chevaux qui m'entraînent vers l'heure du dîner, n'est-ce pas, et qui m'entraînerait à accès? Est-ce que par exemple, vous sentez quelque chose de ce type? Ou bien est-ce que vous sentez quelque chose de l'ordre d'un désir qui est en train, en quelque sorte, non pas d'être combattu par ma volonté, mais au contraire de soutenir ma volonté, hein? Et de, au fond, finalement, si je réussis à faire ce que je veux, c'est parce que y a quelque chose en moi qui est un désir particulier, un désir de convaincre, un désir de séduire, ça, qui porte et donne sa matière et sa force, hein, à la volonté que je suis en train de décrire. Vous avez là toutes sortes de manières de décrire ce que nous appelons vouloir et désirer. On peut aussi bien les mettre en conflit que les embrayer l'un dans l'autre en faisant le soutien mutuel de la volonté. Bon. Effectivement, on a l'impression que ce genre de question est indécidable dans la mesure où là on utilise le mot de désir et le mot de volonté dans des significations où finalement ils ne prennent leur signification qu'en fonction de ce que vous voulez montrer. Et que il y a beaucoup de choses qu'on peut essayer de montrer, il y a beaucoup d'arguments qu'on peut essayer de soutenir. Il y a des cas où on va dire oui, ma volonté, je l'exerce contre mes désirs. Hein. Il y a des cas où au contraire, on va dire ce sont mes désirs qui soutiennent ma volonté. Dans d'autres cas, on va dire même que ce que j'appelle ma volonté, ce n'est rien d'autre que mon désir, n'est-ce pas? Ce que j'appelle la volonté d'aller jusqu'au bout, que j'essaie éventuellement de faire passer comme complètement héroïque, d'aller jusqu'au bout de cet exposé, ça n'est que le fait que je trahis mon épouvantable désir de parler, n'est-ce pas, qui est irrépressible, n'est-ce pas? Et que, en fait, ce que j'appelle ma volonté d'aller jusqu'au bout, c'est un habillage moral pseudo-héroïque pour une passion, hein, qui serait celle de, par exemple, de convaincre, ou de raconter des choses aux gens, etc. Et en fait, on peut... c'est ça qui est extrêmement difficile dans la saisie de ce que serait le désir avec un D majuscule. Il y a beaucoup de manières de les articuler. Ça dépend en fait de ce qu'on veut montrer et probablement des circonstances. Et on ne se rend pas compte à quel point d'ailleurs la définition des concepts philosophiques, c'est moins la découverte de réalités qui existent que d'un bon usage des mots, d'un usage pertinent en fonction des circonstances dans lesquelles on les emploie. Alors, je passe à la deuxième grande question philosophique que j'ai introduite tout à l'heure en parlant du désir avec un D majuscule comme tendance facile à rendre cosmique, hein, qu'on peut rabattre sur une question, je dirais, tout à fait logique. Hein. Est-ce que le désirable précède le désir ou est-ce que c'est le désir qui crée le désirable, hein? Et ensuite, on se raconte des tas de choses pour se donner de bonnes raisons de désirer ceci ou cela, mais d'abord on fait l'expérience du désir et ensuite on trouve que c'est désirable. Alors, bien sûr, c'est une question qui n'est pas une question simplement philosophique, c'est une question qui est indissociable du théâtre, hein, par exemple, hein, de la comédie. Puisque c'est un grand artifice de la comédie que de montrer, n'est-ce pas, que le laideron le plus stupide peut devenir l'objet du désir du poète, n'est-ce pas, uniquement parce qu'en fait c'est le désir du poète qui crée le désirable de l'objet, et que il y a toujours une sorte comme ça de d'usage moral de cet argument, comme quoi c'est le désir qui crée le désirable, pour montrer qu'en fait le désirable en soi, ça n'existe pas. Bon. Et puis il y a les gens qui vont vous dire, mais si le désirable en soi n'existe pas, alors c'est extrêmement grave, parce que les tendances les plus fondamentales que nous éprouvons en nous ne font signe vers rien. Et en particulier ne font pas signe vers Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas un ordre du monde, et il n'y a pas un désir qui est quelque chose, qui est l'expérience que je fais, qu'il y a des penchants naturels. Des penchants naturels qui me font rencontrer quand même que si je vais vers la boisson et vers la nourriture, c'est parce que c'est bon pour moi. Que si les animaux vont vers ce qu'ils rencontrent autour d'eux, c'est parce que c'est un mouvement naturel qu'ils trouvent ce qui est bon pour eux, et que tout ça finalement fait signe vers un agencement de l'ordre du monde et finalement vers une harmonie et une architecture qui désigne, n'est-ce pas, à la fois l'architecte et celui qui harmonise tout. Et c'est très difficile, si vous réfléchissez un peu, d'essayer de dire qu'il n'y aurait pas de penchant naturel. Parce qu'on on a bien le sentiment qu'il existe quelque chose comme des penchants naturels. Et s'il y a des penchants naturels, alors ça veut dire que les désirs, eh bien, ils sont suscités par quelque chose qui est désirable et qui est bon en soi. Même le péché, rappellent les théologiens, même le péché, dans la grande majorité des cas, même le péché qui est mal, c'est un penchant naturel. Enfin, il n'y a que... parce que le péché, il n'intervient que sur des êtres que l'on puisse tenter. Et si on peut les tenter, on les tente dans le sens de ce qu'ils ne demandent qu'à faire, qu'à vouloir, qu'à accomplir. Que ce soit à leur désir sensible, que ce soit à leur désir de gloire, etc. C'est par là qu'on les tente, parce que ce sont des penchants naturels qui ne sont pas essentiellement mauvais. Le seul qui commet un péché absolu, n'est-ce pas, c'est l'ange, dans la théologie, puisque l'ange n'ayant pas de corps, c'est par un pur acte de volonté, sans aucune tentation, que Lucifer rejette Dieu. Comme il n'est pas sensible, comme il n'a pas de corps, c'est un pur acte de volonté, et donc il est damné absolument. Puisque il n'y a que de la volonté, il n'a pas été tenté. Tandis que l'homme, on peut le tenter. Et donc c'est cette sensibilité qui, d'une certaine manière, fait que qu'il a des penchants, et que c'est ces penchants qui sont exploités pour le mal. Alors, cette tradition-là, qui est une tradition dont on a toujours su qu'elle était liée à une forme de théologie naturelle, ça va très loin, l'idée que le désirable précède le désir. Si vous allez jusqu'au bout, vous avez une théologie naturelle. Même si vous n'avez pas le mot Dieu, même si vous n'avez que premier moteur, même si vous n'avez que but final de l'univers, en fait, vous avez Dieu. Ça, c'est le concept. Vous pouvez remplacer premier moteur par Dieu, vous ne changez rien à l'argument. Ce n'est pas parce que c'est des mots différents, ils ont conceptuellement la même fonction. Bon. Donc ça va dans le sens d'une théologie naturelle. Alors à cela s'oppose une idée qui va nécessairement aboutir à la négation de cette théologie naturelle, et qui est que l'appétit, le désir, je vais expliquer la différence, c'est quelque chose qui crée, que nous appelons une chose bonne parce que nous la désirons. Et ce n'est pas parce que nous la désirons que cette chose est bonne. Nous l'appelons bonne parce que nous la désirons. Et au fond, ce qu'on appelle le désir, ça n'est rien d'autre qu'une sorte de conscience ajoutée à l'appétit. Quand je dis que je sais ce que je veux, j'ajoute de la conscience à cette espèce de mouvement qui me porte vers l'objet que je désire. Et cette conscience qui est ajoutée à mon appétit, cette conscience qui est accompagnée d'un discours sur, si on pose des questions, pourquoi tu veux telle chose, pourquoi tu veux tel but dans la vie, pourquoi tu désires telle et telle gratification sensible, etc., tout ce que je vais raconter, toutes les raisons que je vais donner, n'ajoute et ne change rien à l'appétit. Hein? C'est une la conscience s'ajoute à l'appétit, produisant le désir, avec toutes les raisons que vous voulez, sans aucunement changer quoi que ce soit à cet appétit. Autrement dit, dans cette perspective-là, qui est la perspective de Spinoza, qui est une perspective anticartésienne par beaucoup d'aspects, être libre, eh ben, c'est pas du tout choisir des fins par rapport à d'autres fins, c'est pas lutter contre ses passions. Être libre, c'est être conscient de ce pourquoi on est fait. Être libre, c'est être conscient de ce pourquoi on agit, c'est être conscient de sa place dans l'ordre des causes, et notamment de toutes ces causes qui nous affectent et par lesquelles nous affectons les autres et nous nous entre-affectons mutuellement. Être libre, en aucune manière, ce n'est la conscience que j'ai quand je suis libre, c'est pas du tout quelque chose qui va modifier mes désirs, mais simplement qui va me mettre à ma juste place dans l'ordre des affections que je communique et que je reçois. En ce sens, effectivement, il n'y a qu'une seule loi, c'est le désir. Hein, ce n'est pas du tout une invention ni deleuzienne, ni lacanienne, etc. Mais l'identité du fait que la seule loi qui existe chez les êtres humains, c'est le désir. Et le désir, c'est la seule chose qui commande absolument tout ce que je fais. Et dans ce sens extrêmement particulier, vous voyez, les deux choses sont liées. La conscience ne sert absolument pas à réorienter le désir, elle sert simplement à être conscient de ce que je désire. C'est pas l'appétit des brutes. J'ai une idée de ce que je suis en train de désirer, j'ai une idée de la cause qui me porte vers les choses. Et la deuxième conséquence, c'est que on ne peut en aucune manière considérer que une chose est d'abord désirable, je la juge désirable, j'ai conscience qu'elle est désirable, et ensuite je la désire. C'est pas du tout ça. Je la désire, et c'est en la désirant que je la juge désirable. Elle est bonne parce que je la désire. Alors, cette idée est une idée qui aboutit évidemment nécessairement à mettre l'ordre de la nature et la conscience des appétits qui nous portent et nous portent les uns vers les autres et dans lesquels nous avons à nous débrouiller dans une perspective radicalement anti-théologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison ultime de l'harmonie du monde que son ordre tel qu'il est. L'ordre tel qu'il est n'a absolument pas besoin de justification transcendante. Alors, les deux grandes versions philosophiques de cette idée, n'est-ce pas, que nous jugeons une chose bonne parce que nous la désirons, alors il y a celle de Spinoza que je viens de vous expliquer, il y en a une autre qui est très très connue, n'est-ce pas, c'est celle de Hume, qui consiste à dire, ben voilà, le bien, qu'est-ce qu'on appelle le bien? Le bien, ben c'est la projection subjective de ce dont j'ai envie. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle le bien? Ben c'est une projection de ce dont j'ai envie. C'est pas quelque chose qui existe en soi, c'est quelque chose qui est projeté. Et chez Hume, à la différence de chez Spinoza, n'est-ce pas, le bien est une projection, hein, c'est, je juge bonne une chose parce que je la désire, qui met en cause notamment ma fantaisie. C'est ce qui fait que ce qui est bien pour les hommes est si extraordinairement varié jusqu'à l'absurdité la plus complète, n'est-ce pas, comment peut-on parler de bien avec un B majuscule, puisque le bien de l'un et le bien de l'autre divergent de toute l'immensité de leurs imaginations, hein, de leur fantaisie, de leur capacité à littéralement forger par la puissance de leur capacité à fictionner et à projeter des biens qui sont simplement le reflet de la force de leurs appétits naturels. Alors cette idée du bien comme étant purement une projection, hein, et du mal donc étant comme une projection de mes aversions, hein, en quelque sorte, hein, ce que j'appelle le mal, c'est ce qui me répugne, hein, est évidemment, hein, comme vous le voyez, la cause d'un autre fondement de la morale que la référence à Dieu. Hein. Le seul fondement de la morale, c'est du coup ce qui peut être projeté par plusieurs individus et non pas quelque chose auquel les individus sont censés obéir parce que ce serait bien en soi et que leur raison devrait corriger leurs désirs et leurs passions pour la rendre conforme à ce qui est bien en soi. Ça introduit à l'espace des sociétés libérales et individualistes du XVIIIe siècle où n'est bien que ce sur quoi nous pouvons nous mettre d'accord parce que nous projetons de fait partir de nos consciences, de nos existences individuelles, un bien que sur lequel nous nous mettons d'accord par une confrontation et une discussion permanente. Mais il n'y a pas de bien en soi. Et ça introduit un extraordinaire relativisme, un empirisme absolu, qui est tout à fait typique, n'est-ce pas, de la naissance de nos représentations modernes. Alors, ayant raconté tout ça, je voudrais essayer de montrer que tout cet appareillage philosophique est très souvent plaqué avec sauvagerie sur la notion de désir qu'il y a chez Freud, au motif que, comme c'est de la théorie, on a bien le droit d'appliquer des concepts philosophiques à des domaines dans lesquels ça ne fonctionne pas très bien, et aussi parce qu'il y a toujours eu, aussi bien chez Freud que chez Lacan, par exemple, qui est aussi quelqu'un qui a une culture philosophique, un recours à une sorte de concept du désir avec un D majuscule. Un désir qui serait, qui aurait une puissance cosmique qu'on voit très bien dans certains textes de Freud où il parle d'Eros ou de Thanatos, des pulsions de vie, de la pulsion de mort. Il y a comme ça. Dans la psychanalyse aussi, s'exerce cette espèce de pente à traiter le désir comme une sorte de grande entité, de grande image rassemblante dans laquelle des élans qui ne sont pas exactement des projections de nos élans personnels, mais des forces cosmiques, littéralement, se déchaîne. Et puis, parce que on peut fabriquer très facilement des espèces de ressemblances entre certains usages freudiens du concept de désir et puis des usages philosophiques classiques. Bon. Il est très clair, par exemple, que Freud, dans beaucoup de textes, il est jungien. Il considère tout à fait que le désir, c'est projectif. Que ce qu'on appelle bien, c'est tout simplement un reflet de ce qu'on fantasme. Ce qu'on projette avec la puissance de notre fantaisie, de notre imagination sur les choses. C'est typiquement un raisonnement de type jungien. Lacan, c'est un lieu commun, par exemple, de dire que la fameuse équation « le désir, c'est la loi » ou « la loi, c'est le désir » elle est spinoziste. Oui, on peut tout à fait dire que « loi égale désir », c'est un argument spinoziste, que la seule loi que connaît l'homme, c'est la loi du désir, c'est la seule auquel il obéit et que l'expérience qu'il en fait ici ressemble beaucoup au thème de Spinoza. Mais en même temps, et c'est pour ça que vous avez là toute une littérature que je considère comme désolante, qui prolifère à l'infini, tout ça est complètement réversible. Vous pouvez, j'ai dit que Freud était jungien. On peut parfaitement faire de Freud un platonicien dans lequel, vous voyez, vous faites jouer au ça et aux pulsions le rôle du monde sensible, des passions, etc. Et au moi, au contraire, la fonction d'une sorte de raison qui disciplinerait l'homme dans son rapport au bien, à la réalité, etc. C'est extrêmement facile. Et j'en passe, n'est-ce pas ? On pourrait aussi bien trouver chez Freud une certaine forme de cartésianisme, puisque lorsqu'il explique que le désir est conditionné chez l'homme par la retrouvaille de l'objet perdu. Qu'est-ce qui meut le désir humain ? C'est qu'il y a eu un objet, que cet objet est absolument bon, qu'il est perdu, et que c'est cette perte de l'objet primaire qui fait qu'on revient toujours. Vous retrouvez un rapport primaire, n'est-ce pas, d'admiration, une valuation de ce rapport primaire comme étant un rapport d'amour, et l'objet d'amour une fois perdu, alors le mouvement du désir s'y rapportant. Bref, on peut, dans tous les sens, bidouiller les concepts psychanalytiques de manière à les faire ressembler d'une façon ou d'une autre à de la philosophie, et tout ça est extrêmement intéressant parce que ça permet de dire tout et le contraire de tout en produisant à l'infini du texte dans une sorte, comme ça devient, comme vous savez, un exercice culturel. Alors, si on veut essayer d'entrer dans, je dirais, avec une forme de rigueur un peu différente, enfin un autre usage, je dirais moins mondain, moins culturel, de ben, ces grands parallèles, Freud et Lacan et Spinoza, Freud et Heidegger et tout ce que vous voulez. La difficulté, c'est d'essayer de rendre compte de la manière dont Freud se sert du concept de désir pour rendre vrai ou faux un certain nombre de thèses qui rendent opératoire la psychanalyse dans le champ dans lequel elle fonctionne. Et c'est seulement une fois qu'on fait ça qu'on peut ensuite se demander si ça vaut vraiment le coup de retrouver chez Freud des grandes motivations philosophiques. Alors, il y a une chose, par exemple, extrêmement intéressante, je trouve, c'est la façon dont Freud spécifie très bien le type de désir qui l'intéresse. Il ne parle pas du désir en général, il parle du désir comme étant contre-volontaire. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que le désir contre-volontaire? C'est que le désir qui intéresse spécialement Freud, c'est celui que je mentionnais à travers l'exemple du claquement de langue. Comment peut-il se faire que la maman qui veut endormir son enfant et qui sait qu'elle ne doit pas faire de bruit, au moment même où elle en a la certitude, n'est-ce pas, que c'est précisément ça qu'il ne faut surtout pas faire, eh bien, elle découvre avec horreur qu'elle ne peut pas s'empêcher de faire ce bruit de bouche qui va réveiller affreusement son enfant. Bon. Autrement dit, comment est-ce que nous prenons conscience des désirs qui sont psychanalytiquement pertinents? Ben, c'est les désirs dont nous ne voulons pas. Je dirais même, c'est les désirs dont nous ne voulons surtout pas. Par exemple, on aimerait ne pas avoir un certain genre de rêves érotiques. On aimerait ne pas s'intéresser à la femme du voisin, surtout si la femme du voisin est un homme. On aimerait ne pas s'intéresser... Vous voyez, sauf que... Vous voyez, on ne voudrait pas... Sauf que nous sommes bien obligés de reconnaître que c'est ce que nous désirons. Mais le désir, et c'est ça qui est extrêmement intéressant chez Freud, le désir contre-volontaire, c'est celui qui va se manifester sous la forme du tic, n'est-ce pas? Elle ne peut pas s'empêcher de claquer la langue. Hein, sous la forme de l'obsession. C'est-à-dire que c'est ce à quoi je ne veux surtout pas penser. Hein. Par exemple, un phallus en érection au travers de la Sainte Vierge quand je fais ma prière, par exemple, que je pense systématiquement. Et je ne peux pas m'empêcher d'y penser. C'est la chose la plus horrible. Hein. Par exemple, l'apparition d'une image obscène se superposant au crucifix au moment où je fais ma prière. C'est un exemple complètement banal de ce qu'on appelle une obsession visuel, par exemple, qui va se produire à chaque fois. Bon. Avec quelque chose de très intéressant, c'est que, justement, ce n'est pas un désir tout à fait en l'air. C'est un désir qui vient me contredire tout à fait à propos. Hein. C'est précisément avec la femme que j'ai eu tant de mal à mettre dans mon lit que je suis impuissant. Hein. C'est précisément avec elle et ça tombe exactement où ça pouvait tomber le plus mal. C'est-à-dire qu'il y a un à-propos du désir qui rend les choses absolument affreuses dans le symptôme. Non seulement c'est le désir qui compte pour Freud, le désir qui intéresse la psychanalyse, c'est celui dont je ne veux surtout pas. Hein. C'est l'indésirable désir qui a un à-propos, une capacité à me nuire avec une efficacité. Et puis ça se répète, et puis il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser, c'est pas, j'ai beau attendre le lendemain, c'est la même chose, tout se passe très bien, on est sous les draps, pof, je suis complètement impuissant. C'est ça qui va poser le problème de l'étrangeté d'un désir dont il faut bien reconnaître que je n'ai pas l'intention de ce désir, mais alors ce désir, il a de sacrées intentions à mon égard. Et qu'en même temps, je suis bien obligé d'avouer que c'est pas pour rien qu'il est là. Donc, ça aussi, symétriquement, hein, si ce que je désire, c'est ce que je ne veux surtout pas, hein, eh bien, c'est ce que je veux, ce que je peux vouloir, hein, eh bien, je peux le vouloir d'autant plus librement que mon désir n'y est absolument pas engagé. C'est pour ça que lorsqu'on demandait à Lacan, on lui pose les trois fameuses questions à Kant, n'est-ce pas, que puis-je connaître, que puis-je faire, que puis-je espérer, n'est-ce pas, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut vouloir, et Lacan lui disait, mais qu'est-ce que je peux faire? Ce que vous voulez. On peut faire, c'est vrai qu'on peut faire tout ce qu'on veut, du moment qu'on ne le désire pas, il n'y a aucun problème. Mais si vous commencez à le désirer, vous êtes foutu. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, parce que par exemple, il n'y a aucun problème pour que je puisse, si je veux, je prends mon verre d'eau, je le bois, il n'y a aucun problème, je fais ce que je veux. L'homme est libre, il fait ce qu'il veut, dit Lacan, n'est-ce pas ? Si par malheur, il désire faire quelque chose, alors là, son expérience est directe, c'est l'inhibition. La preuve du désir, c'est l'inhibition, le symptôme et l'angoisse. Et je trouve ça très intéressant, parce que vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir fait une analyse pour le savoir, ça. Et c'est en ce sens qu'effectivement, on a l'impression que c'est assez abstrait d'un savoir technique, etc. C'est de prendre les choses dans ce registre-là qui vous montre qu'au fond, c'est une certaine forme d'analyse du concept du désir qui est en cause. Mais avec d'autres... dans d'autres occurrences, pour démontrer d'autres choses, rapportées à d'autres circonstances que celles qui sont traditionnellement celles de la réflexion morale. Alors, c'est quand même bien embêtant que la preuve du désir, ce soit l'inhibition, le symptôme et l'angoisse. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui échappe entièrement à la réflexion morale philosophique ordinaire. Le deuxième élément dans lequel Freud fait intervenir la notion de désir, c'est la façon dont il construit ce magnifique concept de pulsion. Il faut savoir que trieb en allemand, c'est tout à fait, c'est pas comme pulsion en français qui a un caractère un peu technique, c'est vraiment quelque chose qu'on peut rencontrer assez couramment. L'idée, aussi bien dans la tradition littéraire, philosophique allemande, trieb est un terme qui a une grande généralité. Si bien que c'est pas l'idée qu'on a des pulsions qui est importante. C'est la façon dont Freud analyse la notion de pulsion. Et quand il analyse la notion de pulsion, il l'analyse de façon extrêmement rusée, en la séparant en deux parties. Il y a une partie de la notion de pulsion qui permet de capter dans le désir, ce qui fait que le désir, ça va être un désir sexuel qui procède de mon corps. C'est-à-dire que ça procède de certaines zones de mon corps. Je ne désire pas avec les vertèbres. Je ne désire pas avec les cheveux. Le désir, c'est quelque chose qui fonctionne autour des orifices de mon corps, de l'excitation des orifices de mon corps. Et de mon corps également, ça c'est beaucoup plus complexe, mais c'est à partir de l'appareil musculature, de la musculature, à partir de, il y a quelque chose là, de la, une sorte de rage qui possède l'ensemble du corps. Enfin, c'est pour parler de la pulsion de mort, et j'en parlerai pas ce soir. Mais le désir, c'est quelque chose qui va fonctionner, le désir sexuel, autour des orifices du corps. Il y a des zones érogènes, qui sont celles, qui en général, c'est des muqueuses sur les bords des orifices du corps, aussi bien d'ailleurs les yeux que la bouche, l'anus, etc. Quant aux narines, je ne sais pas ce que Freud dit des narines, mais bon, enfin, on peut réfléchir là-dessus. Ces zones du corps sont investies d'une certaine forme d'énergie. Alors Freud considère que ce qui est complètement barbare, enfin bon, c'est comme ça que Freud voit les choses, considère que le vécu que j'ai de l'intensité de mes désirs est une approximation suffisamment forte de la présence en moi de quelque chose comme une énergie, certains types d'énergie, qui est la libido, qui est l'affect, etc., et que ce quantum d'énergie peut varier plus ou moins. Bon. Pourquoi je trouve ça bizarre ? C'est parce qu'évidemment, si vous jugez de la force à partir de l'effort en physique, vous vous trompez toujours. La force, c'est absolument pas quelque chose en physique qui se mesure à partir d'un effort. C'est quelque chose qui s'appréhende à travers des rapports entre des masses, des densités, des volumes, des distances, etc. Mais ça n'a aucun rapport avec un vécu. C'est une conception animique de la force que de penser la force à partir de l'effort. Alors ce que dit Freud, c'est que dans le domaine psychique, c'est pas tout à fait la même chose. Dans le domaine physique, d'accord. Le magnétisme, par exemple, on peut pas l'approximer avec un sentiment d'effort. Mais en revanche, il dit, pour ce qui est des choses mentales, nous avons une forme de vécu qui est quand même relativement ressemblant. Je laisse ce point. Alors ça, c'est tout ce qui est du côté du d'où ça désire et avec quelle force. Et puis, il y a ce que ça désire. Ça, c'est la deuxième partie de la pulsion, son but et son objet. Là, j'ai mentionné la source et l'énergie, et là, il y a le but et l'objet. Et c'est très très subtil que de distinguer dans une pulsion son but et son objet, parce que, en fait, la tradition philosophique a extrêmement peu distingué dans ce que je désire, le but que je poursuis et l'objet que je rencontre dans mon désir. Alors, ce but peut être est un but qui peut être variable. Et qui a toujours comme coloration chez Freud cette idée que un des buts que poursuit une pulsion, c'est de s'arrêter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ça aille trop loin, la pulsion, et que donc le but que poursuit une pulsion est toujours affecté d'une fonction particulière, c'est d'arrêter la pulsion, bon, c'est de faire en sorte qu'à un moment elle soit satisfaite. Il y a beaucoup de façons de la satisfaire. Parmi les buts, il y a par exemple, il peut y avoir l'inhibition, ça peut être un des buts. Il y a aussi la sublimation, chose de ce genre. Il y a des buts passifs, des buts actifs, etc. Et puis il y a la chose qui a le moins d'importance pour Freud, qui est l'objet. Pourquoi il dit que ça a le moins d'importance? Parce que l'objet de la pulsion, ça peut être absolument n'importe quoi. C'est quand même extraordinaire, le désir, c'est en ce sens qu'il est très jungien, c'est que le désir pulsionnel peut prendre toutes sortes d'objets, et puis si je peux pas avoir Justine, eh bien je peux me contenter de son prénom et répéter Justine, 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 et ça me met dans le même état que quand j'ai Justine dans mon lit. Et Justine, par un déplacement, le nom peut suffire. Si ça ne suffit pas, une mèche de cheveux peut suffire, un pan de jartelle également, suspendu dans ma chambre, peut parfaitement tenir lieu de Justine, et même des lettres de son nom, et même un reflet de ses yeux aperçu sur le nez de mon voisin, dont je peux tomber amoureux par déplacement de l'objet. C'est-à-dire que l'objet, c'est franchement quelque chose qui a, dans le fétiche par exemple, mais il n'y a pas que les fétiches, c'est vraiment la chose qui a le moins d'épaisseur, le moins de consistance, et qui peut glisser à l'infini dans toutes les représentations. Du moins, ça, c'est un des premiers rapports qu'il a à l'objet. Ce qui est assez amusant dans la représentation qui se fait du désir sexuel pensé en termes de pulsion, c'est qu'évidemment, ce qu'il cherche à faire, c'est à donner une réponse à la question de ce que c'est que la perversion. Si vous pensez la perversion non pas en termes de dénaturation de l'individu, c'est-à-dire que les pervers, c'est des tarés. Et alors, s'ils ont envie des cheveux plutôt que des femmes, n'est-ce pas, c'est parce que c'est des tarés. Parce que vraiment, constitutionnellement, vraiment leur cerveau est anémié, ils viennent pas de la bonne race, on les a mal nourris, etc., etc. Ou alors, vraiment, c'est l'espèce humaine qui est en train de dégénérer, ce qui est une représentation extrêmement commune au XIXe siècle. Si vous voulez penser pourquoi les pervers sont paradoxalement si intelligents, capables de changer de fétiche, de changer d'objet, etc., il faut que vous analysiez le désir qui les porte vers leur objet, ce désir pervers, comme étant obéissant à un certain nombre de contraintes. Et c'est la perversion qui sert d'analyseur au concept de désir. Or, on s'aperçoit que pour penser les différentes formes de perversion, eh bien, vous avez besoin uniquement d'analyser le désir entre ces quatre termes, n'est-ce pas ? Une source. Il y a des gens qui se servent pas des bons orifices, il faut le dire comme c'est. Il y a des gens qui mettent pas le bon investissement énergétique sur le bon orifice. Il y a des gens qui ne suivent pas le bon but. Et puis il y a des gens qui prennent pas le bon objet. Et qu'avec ça, vous avez un tableau combinatoire qui vous permet, sans aucunement supposer que les pervers ont une quelconque dégénérescence, de montrer qu'il y a une possibilité des extensions du concept de désir qui vous permettent de recouvrir, le tableau général des perversions. Et notamment des plus mystérieuses, n'est-ce pas, le fétichisme, l'aversion sexuelle, les gens qui s'intéressent aux déjections, etc., etc. Et simplement par une analyse du concept de pulsion. Vous voyez que le désir ici est rapporté à un argument de type épistémologique pour rendre compte du tableau des perversions tel que vous le trouvez dans Kraft et Bing, etc. Et pour montrer qu'au fond, ce sont des possibilités humaines générales qui sont exploitées par les perversions. On insiste souvent sur le côté chez Freud complicité avec un discours normatif sur les perversions. Mais en même temps, ces perversions, par exemple chez les enfants, elles sont présentes. Les enfants jouent et manipulent des objets qui, s'ils avaient 15 ou 20 ans de plus, les feraient considérer comme des pervers, etc., etc. Ce qui est intéressant chez Freud, cette idée qu'au fond, c'est que ce sont des possibilités du désir humain et que l'analyse du concept de désir dans toutes ces quatre, dimensions, source, énergie, but et objet, a pour fonction de montrer que c'est toujours du désir humain. C'est des capacités combinatoires du désir humain. Alors, une des très jolies choses, j'aime bien, que je trouve chez Freud, hein, c'est cette distinction qu'il fait entre les anciens et les modernes. Hein, c'est dans, je ne sais plus quelle édition, des traités sur la théorie sexuelle. C'est qui viennent d'être publiés, là, j'ai vu la nouvelle traduction, le volume 6 qui vient de sortir. Il dit à un moment, les anciens, ce qui les intéressait, c'était plutôt la pulsion. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'objet. C'est pour ça que l'homosexualité antique, c'est pas du tout une homosexualité. Le fait que ce qui intéressait, par exemple, les Romains, c'était pas tellement que ce soit une jeune fille ou un esclave. C'était l'exercice de la pulsion. C'était la domination. C'était la poussée de la pulsion qui se satisfait. Et que ce soit une jeune fille ou un esclave, du moment que c'est un inférieur et qu'il est en position d'objet, peu importe. Les anciens valorisaient la poussée de la pulsion. C'est ça qu'ils considéraient comme divin. Tandis que nous, ce qui nous intéresse, c'est la femme idéale avec deux majuscules. C'est-à-dire que nous, ce que nous valorisons, c'est pas la poussée de la pulsion, que le contexte religieux nous fait verser du côté du péché ou de la faute, mais ce qui, en quelque sorte, rattrape la faute de la poussée de la pulsion, c'est l'idéalité de son objet. Et pour ça, nous sommes capables d'idéaliser incroyablement l'objet. Mais comme l'objet est en même temps complètement insigne, il peut être une chose et son contraire, c'est pas, c'est le thème de la comédie, nous sommes capables d'idéaliser les femmes les plus laides et les plus insignifiantes, c'est pas, et nous sommes capables de construire à partir de rien et de n'importe quoi des objets idéaux qui ont à chaque fois pour fonction, ces objets idéaux, de rattraper la poussée de la pulsion que nous vivons plutôt nous comme angoissante ou comme dégradante. Et je trouve que cette opposition, qui vaut ce qu'elle vaut, parce que bien évidemment, vous imaginez que les Grecs savaient parfaitement bien ce que c'était qu'idéaliser, il suffit de regarder les sculptures, elle a néanmoins quelque chose d'assez fin, parce que je crois que si ce n'est pas les anciens ou les modernes, on voit bien chez les gens autour de nous, hein, ceux dont le Dieu est l'objet et ceux dont le Dieu est la pulsion. Hein, ceux qui trouvent ça dans une expérience érotique, ceux qui trouvent sacré ce qu'ils trouvent du côté de l'objet, qui vont idéaliser, et ceux dont l'expérience du sacré, enfin de quelque chose qui va les impressionner plus, c'est du côté de la poussée de la pulsion, de l'émerveillement devant le fait que ça vit comme ça, et ça prend son objet. Et puis l'objet, il peut être ce qu'il veut. Hein. Et que, bien, ben, c'est assez typique, hein, on voit bien, il y a des hommes comme ça. La femme peut être l'objet qu'il veut, et comme ça, ils ont l'air souvent très généreux, d'ailleurs, en fait. Mais en fait, c'est parce que leur dieu, c'est la pulsion. Puis il y en a d'autres, vraiment, il faut qu'une femme soit absolument d'un certain type extrêmement particulier, et ils ne veulent pas penser à la poussée qui les conduit vers l'objet. Alors, c'est ça qui, je trouve, est assez intéressant, c'est que Freud, à travers cette analyse-là, a complexifié l'analyse du désir en divisant le problème de l'objet du désir. C'est toujours le désir avec un D majuscule, hein, en deux, avec le but et l'objet. Et là, il y a une complexification qui, je crois, est extrêmement subtile et qu'on ne trouverait pas chez Descartes, par exemple, ou chez Platon. Mais il y a un deuxième registre dans lequel Freud fait jouer le désir et qui est très intéressant, c'est un célèbre argument qui le met en évidence, qui est un argument absurde, qui est ce qu'on appelle l'argument du chaudron. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'argument du chaudron dans la trame d'Oitung. L'argument du chaudron, c'est quelqu'un qui rapporte, on lui a prêté un chaudron, il rapporte le chaudron est percé. Et alors, il commence par dire que ce n'est pas lui qui a fait les trous. Ensuite, il dit, la deuxième raison, c'est que de toute façon, quand on lui a donné, il y avait déjà les trous. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on ne lui a jamais prêté de chaudron. Donc, ça, vraiment, il est complètement innocent. Chacune des raisons prises à part est bonne. Il y Mais si vous dites au juge, n'est-ce pas, d'abord, c'est pas moi qui ai fait les trous, ensuite les trous y étaient déjà, et de toute façon, on m'a pas prêté ce chaudron, hein, évidemment, les arguments se détruisent. Alors, cet argument du chaudron montre, c'est qu'en fait, il se généralise à toutes les situations de désir, en montrant qu'au fond, il y a quelque chose dans tout désir qui se fiche des contradictions. Du moment que je ne suis pas coupable, toutes les raisons peuvent valoir. Alors, il y a une version, moi, ce que j'appelle l'argument de la crémière, pas que vous connaissez tous, n'est-ce pas, c'est vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, qui met en évidence dans le désir, dans l'appétit, quelque chose qui est qui se moque des contradictions internes de ce qui est produit. Et ça, je crois qu'un vrai désir, et même d'ailleurs ce à quoi nous mesurons qu'un autre éprouve pour nous ou pour quelqu'un d'autre un vrai désir, c'est justement que c'est contradictoire. C'est pour ça que la dernière chose à demander à quelqu'un qui est amoureux de vous, n'est-ce pas, comme vous savez, c'est « mais enfin, qu'est-ce que tu veux ?» Parce qu'il veut une chose et son contraire. Et en plus, il veut les deux en même temps. Mais aucune des deux en même temps. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel, parce que c'est, si vous voulez, c'est la preuve que l'autre éprouve du désir, hein, c'est qu'il est contradictoire. Le désir, un désir qui ne serait pas contradictoire, est extrêmement angoissant, parce que c'est une volonté et un calcul. C'est-à-dire que l'autre, il veut, par exemple, se servir de vous. Alors, quand il veut se servir de vous, c'est extrêmement simple, là, il n'y a aucune contradiction. Là, vous êtes l'objet de sa volonté et éventuellement l'objet de sa manipulation. En revanche, quand l'autre est contradictoire, là, on est tranquille, c'est du désir. Hein. Il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas l'objet d'une visée perverse. Parce que, quand on a une visée perverse, elle n'est pas du tout contradictoire. Hein. Ça, elle est extrêmement claire, on sait très bien ce qu'on veut. Alors, cette perception comme ça que nous avons du désir est extrêmement intéressante parce que, voyez, au lieu de dire « c'est affreux, le désir est irrationnel », Freud prend les choses sur un tout autre registre et dit « c'est la preuve que le désir est bien le désir quand vous avez cet élément d'irrationalité ». Et que, à la limite, vouloir l'impossible, c'est quelque chose qui est un véritable désir. C'est quelque chose que nous ne pouvons, d'une certaine manière, pas nier. C'est ce qui démontre le caractère à la fois excitant, ravageant et indomptable du désir. Ça va plus loin que de simplement dire que le désir est contre-volontaire. Ça montre bien que la volonté que nous opposons au désir, c'est la volonté d'une domestication par la raison. Alors, ça implique qu'il faut apprendre à penser le désir sans lui donner pour objet un modèle d'objet que nous avons très facilement, qui est l'objet de la connaissance. Qui est l'objet de la croyance, l'objet de la connaissance, l'objet du savoir. Ce qui est une autre attitude à l'égard des choses. On peut les vouloir, les connaître, on peut les désirer, les savoir, etc. Ce sont des registres très différents. Et effectivement, un objet de connaissance, l'objet de connaissance, il ne peut pas être impossible. Si vous croyez à quelque chose, vous pouvez croire qu'à quelque chose qui existe, qui est vrai, etc. Essayez de croire à quelque chose de faux. Vous ne pouvez pas croire à quelque chose. Si vous croyez à quelque chose, c'est que vous le supposez vrai. Croire et croire que quelque chose est vrai, c'est la même chose. Croire, ça implique analytiquement que ce quoi on croit est tenu pour vrai. D'ailleurs, croire peut être traduit, d'ailleurs c'est Fürwahrhalten, on a dit Kant, n'est-ce pas, c'est tenir pour vrai, croire. Et désirer n'implique aucunement que nous soyons soumis au fait que l'objet soit non contradictoire, vrai, mais parfaitement désirer une illusion en sachant que c'est une illusion. Ça ne nous empêche pas de la désirer. Que donc le type de l'objet, de quoi est-ce que je suis désirant, qu'est-ce que je désire, il faut nous guérir de l'idée que l'objet du désir est construit sur le mode de l'objet de la connaissance. Et ça, c'est beaucoup plus fort que de dire que le désir et la volonté, c'est différent. C'est beaucoup plus fort parce qu'effectivement, l'objet de la volonté, quand vous demandez à quelqu'un « qu'est-ce que tu veux ?», en général, c'est un rappel à l'ordre, à la logique. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux ça ou tu veux ça ? C'est tellement contradictoire, on ne peut pas s'en... une fille comme toi, on peut, enfin, vraiment, on ne peut pas s'en sortir, quoi. Bon, donc, maintenant, vous voyez, quand vous demandez, qu'est-ce que tu veux, vous obligez l'autre à prendre pour objet de sa volonté un objet qui est conçu sur le mode de l'objet rationnel, de la connaissance et du savoir. Yeah. En revanche, le désir ne fonctionne jamais comme ça, hein. Le désir, dans l'expérience que nous en avons d'ordinaire, l'objet du désir ne se laisse en aucune manière ranger dans la case du noir ou blanc, du vrai ou faux, ou du oui ou merde. C'est le oui-oui qui est un non-non, c'est le merde qui est un oui, c'est etc. Vous voyez, c'est ça qui est, il me semble extrêmement important, c'est de bien nous guérir de l'idée que l'objet du désir devrait être pensé dans le registre de l'objet de la connaissance, de l'objet de la volonté. Alors, chez Freud, n'est-ce pas, ça amène à toutes sortes de considérations sur, finalement, le désir sans un objet. L'objet du désir chez Freud n'est pas un objet ordinaire. Et que, au fond, le désir peut être l'objet du désir. Il y a un plaisir à désirer. Il y a ce qu'il appelle lust, d'ailleurs, hein, c'est le plaisir-désir, n'est-ce pas, ou quel que soit l'objet qui entre en ligne de compte, de toute façon, ce qui m'importe, hein, c'est le désir lui-même, c'est le plaisir que j'ai à désirer. Et qui fait, par exemple, du désir cette chose invraisemblable qui peut être quelquefois le plaisir pris au manque. Bon. Ce que j'appelle le plaisir pris au manque, c'est quelque chose qui est essentiel dans une cure, hein, qui a été très bien montré comme étant l'envers positif de ce qu'on appelle la castration. C'est que désirer, c'est une puissance. C'est la puissance de ne pas être possédé par ce qu'on possède. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est un plaisir qui est effectivement ce que nous éprouvons dans notre capacité à pouvoir manquer sans être possédé par l'objet dont nous avons besoin. C'est le plaisir qui est très particulier, qui est éprouvé comme une puissance et comme une augmentation de la capacité à vivre. C'est la puissance de ne pas être possédé par ce qu'on possède. C'est peut-être une des définitions du désir qu'il n'y a pas dans Freud que je vous propose, mais qui vous fait bien sentir ce qui est l'envers positif de ce que Freud appelle la castration comme solution à une cure analytique. Alors, il y a un autre objet dont je voulais dire un mot quand même, parce qu'il est assez frappant, un autre objet fabriqué dans cet espace purement psychanalytique de l'analyse du désir, hein, et que vous ne trouvez chez aucun philosophe, et qui est aussi très fonction de l'idée que Lacan, par exemple, a essayé de penser l'objet, qui est un mot totalement investi dans le vocabulaire de la connaissance, n'est-ce pas, l'objet de connaissance, l'objectivité, etc., à penser l'objet dans un registre absolument étranger à tout ce qui est théorie de la connaissance, pensée scientifique, etc. C'est ce qu'il appelle l'objet cause du désir. Il appelle aussi quelquefois l'objet ptita. Par exemple, aller supposer cette chose, qui vaut mieux supposer d'ailleurs, parce que quand ce n'est pas le cas, ça pose toutes sortes de problèmes, que l'enfant est l'objet du désir de ses parents. Ce désir qui d'ailleurs n'a nullement besoin d'être conscient, et qui est en général un désir coupable, voire éventuellement, d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose, un désir monstrueux. Ça n'empêche pas de naître que vos parents, ça vous empêche pas de naître que vos parents aient eu un désir coupable ou monstrueux. La nature se moque de ce genre de choses. Néanmoins, ça a des conséquences extrêmement graves, la nature du désir des parents et de ce qui est inconscient. Eh bien, ce que dit Lacan, c'est que chaque sujet, du fait d'avoir été pris dans la problématique du désir qui a animé ses parents, chaque sujet a pour cause de son propre désir cet objet du désir des parents. Autrement dit, c'est ce qui est manquant en amont de son existence. C'est ce qui s'est décidé en amont de son existence. C'est le désir qui a présidé à son existence de sujet, dont il va déguster jusqu'à la dernière bouchée les effets dans sa névrose. Au sens où il hérite de la faute, de la monstruosité, de la culpabilité, de la bizarrerie, de l'étrangeté, de l'incommensurabilité, par exemple. Enfin, qu'est-ce que ces deux-là ont bien pu faire ensemble, hein, pour que je sois là? Et comment se sont-ils arrangés de leur si évidente incompatibilité réciproque, ou de leur trop grande compatibilité, hein, Dieu sait quoi, qui va être la cause même de ce qui met en branle le mouvement du désir de l'enfant. Si bien que, en amont de l'existence, n'est-ce pas, avant même que le sujet soit venu au monde, avec tout ce qui est investi, par exemple, dans le choix de son prénom, dans les espérances sur son sexe, dans la façon dont les parents peuvent éventuellement s'arranger du sexe du petit garçon en l'habillant en petite fille, toutes sortes de choses de genre qui va totalement conditionner dans les choix d'éducation, dans le on fait ceci, on fait pas cela, dans le qu'est-ce que tu ressembles à ton papa, etc., qui va conditionner absolument pour une cause qui est, pour un objet qui est totalement perdu, qui est inaccessible, le désir de l'enfant. Autrement dit, c'est ce qui fait que ce désir nous loge dans un défaut de la toute-puissance de ceux qui nous ont fait, puisque dans l'immense majorité des cas, ils n'ont aucune conscience du désir, les parents, qui les portent à faire ceci, à élever ceci, à élever leurs enfants de telle et telle manière. Et alors ça, l'idée d'un pareil objet, un objet cause du désir, c'est quelque chose qui est complètement inenvisageable dans le cadre d'une analyse philosophique. C'est quelque chose qui n'a de signification que dans les thèses psychanalytiques qu'on s'efforce de défendre et qui ne peut être définie et ne prendre de valeur de vérité qu'à l'intérieur des arguments définis à l'intérieur du champ de la psychanalyse. Alors, je vais conclure en faisant quelques remarques sur tout ça et en vous exprimant, si j'ose dire, mon très profond scepticisme à l'égard de ce que je viens de raconter ce soir. Parce que tout ça est très joli dans la mesure où, effectivement, ça renvoie à un désir avec un D majuscule, qui est une généralisation sur des choses qui me paraissent fondamentalement incroyablement variées et différentes. Et que même la façon dont je vous ai parlé, là, de Freud et de Lacan, me paraît exagérément philosophique, c'est-à-dire exagérément métaphysique. Au sens où là, j'ai fait un petit peu comme si j'enrichissais de nouveaux aspects du désir avec un D majuscule, hein, d'aspects psychanalytiques du désir avec un D majuscule, un désir qui existerait, hein, en dehors de nous et dont il faudrait découvrir l'essence. Alors je ne crois pas du tout que les choses se passent ainsi. Par exemple, si vous prenez des énoncés très banals, du genre « je veux qu'après ma mort, je désire qu'après ma mort, mes cendres soient dispersées », ou bien un énoncé du type « je te désire », conversation d'oreiller, « je te désire ». Ou bien vous êtes au restaurant et un maître d'hôtel particulièrement chic se penche « désirez-vous un peu plus de Bourgogne ?» Je vois vraiment pas pourquoi on irait négliger le fait que le mot désir sert à tout ça. Je vois pas pourquoi on irait, par une sorte d'appétit esthétisant, fabriquer comme ça un désir avec un D majuscule qui lui serait le vrai désir, tandis qu'au moment où quelqu'un dit n'est-ce pas, désirez-vous un peu plus de Bourgogne, ce serait pas du désir qu'on interroge chez moi, hein. C'est bien le mot qu'on emploie. Si c'est le mot qu'on emploie, n'est-ce pas, pourquoi ne pas accepter cette espèce de fait qu'il y a bien des choses qui se passent dans la manière dont nous reconnaissons que quelqu'un veut, a envie, désire, qui n'est pas du tout liée à une imperfection du langage ou une imperfection par rapport à des concepts avec un C majuscule de ce que doit être le désir, mais qui est tout simplement que si nous parlons, c'est avec ces mots-là, et que c'est peut-être ces mots-là qui devraient nous guider plutôt que nos idéalisations dans la compréhension de ce dont il s'agit. Je crois, par exemple, que chaque fois que vous employez des locutions sous la forme « je désire que » ou bien « le désir de », hein, « le désir de promotion sociale des classes populaires », par exemple, on a bien le droit de parler du désir de promotion sociale des classes populaires. On ne parle pas On ne parle pas chinois quand on parle ça. Quand vous dites ça, par exemple, est-ce que vous croyez, franchement, que c'est un problème de savoir si la promotion sociale est un désirable qui précède ou qui ne précède pas le désir? Je crois que chaque fois qu'on emploie des expressions en désir que ou en désir de, bien évidemment que la promotion sociale est désirable. Et c'est parce qu'elle est désirable qu'elle suscite le désir des gens. C'est pas, si vous voulez, c'est quand nous employons des locutions sous la forme « je désire que » ou bien « le désir de », évidemment que l'objet désirable précède le désir. Maintenant, si vous employez sur un mode évaluatif, n'est-ce pas, conversation d'oreiller, « je te désire » ou bien « tu me répugnes ». Bon, on ne va pas non plus oublier comme ça. Quand vous employez ce vocabulaire dans un sens valuatif, qui crée une valeur, vous faites un autre usage du mot désir qui n'est pas plus vrai ou pas plus faux que le précédent. Il n'est pas plus vrai ou pas plus faux. C'est simplement que la richesse de la langue vous permet de switcher, de passer d'un terme à l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que le désir au sens absolu, c'est un cas du désir, c'est un cas de l'usage du mot désir et du vocabulaire du désir, mais en aucune manière on ne peut considérer que c'est la vérité conceptuelle de ce qui se passe dans le désir. Je crois que si on s'abstient de faire de la métaphysique, si on se contente simplement de respecter l'extrême richesse, on s'aperçoit que beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, à savoir si c'est le désirable précède ou non le désir, n'est-ce pas, ça dépend de la phrase. Ça ne dépend pas de la nature du désir, ça dépend de la phrase que vous employez. Et ça dépend du contexte dans lequel vous l'employez. Et il y a quelque chose de totalement artificiel, n'est-ce pas? C'est ce que j'appelle le désir avec un D majuscule, lorsqu'on perd le contact avec le vocabulaire du désir. Et d'ailleurs, si vous faites bien attention, la volonté et le désir, on s'en fait toute une montagne. Mais lorsque vous dites « je désire que mes cendres soient dispersées », on appelle ça mes dernières volontés, on n'appelle pas ça mes derniers désirs. Est-ce que c'est un usage vraiment déviant du mot de volonté d'appeler ça? Est-ce que vous ne pouvez pas dire « je veux que mes cendres soient dispersées » et remplacer « je veux » par « je désire » de façon sans que ça change rien du tout, Maintenant, si vous dites à quelqu'un « je te désire » et puis si vous dites « je te veux », ça n'a pas forcément le même sens. Mais ça dépend du contexte encore, voyez. Donc il y a énormément de choses qui sont des inventions qui durcissent un petit peu le sens des concepts du désir et de la volonté, et qui nous font perdre quelque chose qui n'est pas l'imprécision du langage ordinaire, mais qui est au contraire la vraie richesse du langage ordinaire. J'avance sur le point suivant, c'est qu'il y a beaucoup de choses dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il n'y a pas besoin de dire « je te désire » à quelqu'un pour le désirer. Prenez par exemple le sens, bien souvent lorsque... le désir est perçu sans qu'on emploie le mot. Et non seulement il est perçu sans qu'on emploie le mot, il est parfaitement perçu sans qu'on emploie le mot, mais parfois il est même perçu sans qu'on emploie le pronom personnel « je ». Vous connaissez tous ce que dit Chimène, n'est-ce pas, à Rodrigue, n'est-ce pas, « va, je ne te hais point ». Hein, déjà, le « je ne te hais point » est totalement éloquent. Et je dirais qu'il est même une preuve bien plus forte de l'amour que le « je t'aime » dans la circonstance où c'est prononcé. Mais il y a plein de choses qui s'appellent des actes de langage indirect où, en fait, nous exprimons nos désirs sans du tout les mentionner. Par exemple, si j'ai trop chaud, je peux dire « Annie, est-ce que tu peux fermer la fenêtre ?» Mais je peux aussi avoir un autre acte de langage du type « Oh, il fait chaud ici !» Qu'est-ce que va dire Annie? Tu veux que j'ouvre la fenêtre? Tiens, j'ai pas besoin de lui dire « je veux que tu ouvres la fenêtre ». Il y a énormément de choses dans lesquelles nous pouvons, au contraire, éclipser totalement un « je », un vocabulaire du désir, etc. Et où l'autre va parfaitement ressentir qu'il s'agit d'un désir. Alors une chose qui me paraît tout à fait fascinante, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire sentir aux autres ce que nous voulons leur faire sentir affectivement. Par exemple, est-ce que quand vous dites à quelqu'un « Fais attention, je ne te menace, je te menace, hein, je te menace. » Alors on peut faire ça aux enfants de 3 ans. Mais vous vous rendez bien compte que si vous dites « je » et que si vous nommez l'affect, et si vous dites « je te menace » comme ça, c'est tout à fait nul. En revanche, si vous commencez à dire « tu sais, à l'étage, hein, il y a des menottes, hein, des clous, une planche, hein, des petits rigolos comme toi qui sèchent, etc., suspendus, oui. Qu'est-ce que c'est que menacer ? C'est pas dire « je te menace ». Qu'est-ce que c'est que désirer ? C'est pas dire « je te désire ». Vraiment, quand on en est à dire « je te désire », c'est que soit la cause est déjà gagnée, soit que vraiment on pédale dans la semoule depuis des heures, que l'autre ne comprend pas, et qu'il va falloir véritablement... il est 11h30, comme dit Darian Lieder, ça c'est... Ce que se disent les Allemands, les amants quand il se fait tard. C'est ça qui... Là, il est 11h30, bon, là, il faut essayer de dire les choses, mais c'est en désespoir de cause. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le désir, vous voyez, c'est absolument pas quelque chose qu'on peut capter, surtout au sens absolu, comme ça. Le désir, c'est au contraire quelque chose qui doit s'entendre dans ce que le sujet éventuellement ne s'entend pas dire et dans sa façon d'affecter autrui. Alors, je vais conclure sur ceci. C'est que lorsque nous parlons de désir en psychanalyse, il ne faut surtout pas craindre de dire que le désir est vraiment un effet d'interprétation. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un dit qu'il a envie de ceci, etc., et que vous allez produire un effet de libido, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un désir sexuel inconscient qui est en cause. C'est une interprétation qui va, d'une manière extrêmement forte, s'approprier quelque chose qui se présente éventuellement dans le vocabulaire de la volonté, hein, dans le vocabulaire de quelqu'un dit de ce qu'il veut, moi dans la vie, voilà ce que je veux, je suis très déterminé. Hein, c'est de prendre ça et d'une manière extrêmement brutale, de l'appeler autrement et de le ranger sous une catégorie de désir en nommant un désir, hein, qui va être en quelque sorte, qui va apparaître du fait de l'intervention explicite de l'analyste, hein, qui va faire pour des raisons qui sont liées au transfert. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un analyste, c'est pas quelqu'un qui va détecter un désir qui était caché sous une couche de volonté. Hein. Alors, on enlevait la couche de volonté, puis qu'est-ce qu'on voit apparaître, n'est-ce pas ? On voit apparaître le désir. C'est quelque chose qui est une opération qui ressemble un petit peu à l'opération philosophique de construire du désir avec du D majuscule, n'est-ce pas, et d'interpréter la nature en disant, voilà, c'est le mouvement des sphères vers le premier moteur. Hein, ça, c'est quelque chose de cet ordre. On fabrique un désir avec un D majuscule. La psychanalyse va aller, non pas détecter ce que serait vraiment l'essence du désir, mais produire, nommer, qualifier un désir comme étant quelque chose qui est en cause là-dedans. Si bien qu'on ne sait jamais très bien, lorsqu'un désir est nommé, si ce désir est révélé ou si ce désir est créé. Il y a une très jolie anecdote comme ça de Bertrand Russell qui raconte qu'une fois il était au bord de la cheminée avec je ne sais quelle lady et comme ça il raconte dans un texte philosophique qu'avait lu Lacan, d'ailleurs, qu'il mentionne, il dit comme ça, à ce moment-là je lui ai dit je t'aime et c'est en lui disant je t'aime que je me suis aperçu que c'était vrai. C'est-à-dire qu'il y a effectivement non seulement c'est l'interprétation, il peut y avoir des effets d'auto-interprétation, où en réalité le désir est produit par une activité de ranger des choses dont on a envie, etc., des choses qu'on veut, etc., sous une nouvelle catégorie. Et ça change totalement la perspective sur le désir de ce qui est toujours la tâche philosophique constante qui serait de détecter ce que sont les vrais désirs et les faux désirs, les bons désirs ou les mauvais désirs, n'est-ce pas ? Comme si on pouvait les distinguer. Là, il y a une opération particulière qui est liée au transfert, hein, et qui fait qu'on va nommer désir en un sens absolu par quelque chose qui est un forçage qu'il faut pas nier, des désirs qui, dans le langage ordinaire, ne porte pas en eux-mêmes cette marque. Je vous remercie. J'éteins, hein, le... Hein ? Oui, il y a quelqu'un qui voulait poser une question.
Vous parlez de Lacan, il y a part... d'inconscient finalement qui reçoit ses parents, qui va créer son désir.
Qui est l'objet, l'objet cause du désir. Ouais, c'est une chose étrange.
Du coup, je pense à la notion de liberté.
Oui. Ben, y en a une, c'est qu'effectivement, ce que ne savent pas les parents de leur désir, c'est la condition de la liberté des enfants. Tout simplement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tout puissants. Vous avez des parents, ils peuvent vouloir énormément de choses pour leurs enfants. D'ailleurs, ce n'est pas du tout toxique, tant que les enfants sont l'effet de leur désir et non de leur volonté. Vous voyez, en quel sens ça, ce que ça change. On peut vouloir des tas de choses pour ces, on peut vouloir tout et n'importe quoi. En général, les enfants s'en fichent. Mais les enfants sont libres dans la mesure même où ils sont l'effet d'un désir inconscient des parents. C'est-à-dire que les parents ne sont pas tout puissants. Ils ne savent pas. Il y a quelque chose qu'ils ne savent pas. C'est ce qu'ils ont mis en cause dans le fait de se retrouver avec cet enfant et du type de choses que ça suscite chez eux. Et ça, c'est tout à fait différent de cet objet-là que simplement, je dirais, ce que Lacan appelle aussi quelquefois l'objet du désir, mais il appelle ça l'objet métonymique du désir, c'est que l'objet change tout le temps. Ça, c'est pas de cet objet-là dont je parle, c'est de ce qu'il appelle l'objet vital, qui est un objet cause du désir, et qui est perdu. Véritablement, ça, c'est quelque chose que... Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire, ces deux-là, pour me faire? Point d'interrogation. Mais la possibilité même de poser cette question, c'est la possibilité d'inventer une infinité de réponses, qui seront tout aussi inégalement insuffisantes, elles seront toutes également insuffisantes, si j'ose dire, et justement, de fait là, libérantes. C'est même la seule liberté qui est dans le désir.
Ça veut dire que pour être libre, il n'y a pas moyen d'être libre sans trouver l'énigme des parents et la résoudre.
Au contraire, je crois que l'énigme des parents, elle gagne à rester impénétrable. C'est-à-dire que la question de qu'est-ce que ces deux-là ont fait pour me faire, hein, c'est franchement, c'est le mariage de la carpe et du lapin, n'est-ce pas, hein, dont je suis le fruit improbable, ou bien des questions de ce genre. Vous voyez, c'est pas des le sentiment d'avoir été mal foutu, hein, est un sentiment qui est vécu névrotiquement comme douloureux, mais qui justement est un sentiment qui du coup mal foutu pour mal foutu. À quoi est-on lié d'autre qu'à ce à quoi on a envie de faire? C'est ça le point de renversement, hein, où l'objet ptita, c'est ce qui sépare sur le mode de chagrin d'une perte, hein, d'un X qui ne sera jamais résolu, mais cet X est peut-être mis en position de moteur. Au lieu d'être justement quelque chose de perdu qu'on va retrouver, une fois mesuré son caractère de vide et de radicale insaisissabilité, il peut tout à fait être mis en position de moteur.
C'est le premier moteur.
C'est en ce sens que ça ressemble tout à fait, hein, à cette idée de premier moteur, sauf que le premier moteur, c'est un X, hein, dans le désir humain. Tandis que chez Aristote, le premier moteur, c'est le suprêmement connaissable. C'est ce vers quoi tout fait signe, c'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire Dieu. Alors, vous voyez, il y a à la fois une homologie entre les deux, et en même temps, il y a une différence absolue.
Je crois qu'il y a Lacan qui dit quelque part que Dieu est inconscient, donc peut-être pour lui, Dieu, c'est celui...
Oui, alors la signification de cette formule est très très débattue, hein, très très discutée. Mais non, Dieu est inconscient, c'est un Dieu assez bizarre là, auquel il est fait référence. Je crois qu'on n'est pas du tout, au contraire, je crois qu'on n'a pas à mettre de figure à cet endroit-là. La figure que l'enfant met dès le départ, c'est celui qui serait la raison d'être du couple des parents. Et la raison d'être du couple des parents, c'est le X sexuel, n'est-ce pas, qui fait que les parents sont ensemble. N'est-ce pas, c'est le fait qu'il n'y a pas d'enfant qui se constitue imaginairement sans se considérer d'une manière ou d'une autre comme le trait d'union entre la carpe et le lapin, hein, entre ces deux trucs-là. Bon. Ce qui fait, comme vous savez, enfin, c'est la psychopathologie de la vie quotidienne, n'est-ce pas, quand les parents divorcent, les enfants se sentent coupables. Puisqu'ils ne peuvent se constituer que comme étant la raison d'être de ce truc-là, parce que sinon ils ne voient pas pourquoi on les aimerait. Donc effectivement, c'est quelque chose de très organisateur dans ce qu'on appelle la normalité. Et lorsqu'on fait sentir aux enfants qu'ils ne sont pas des traits d'union, hein, par exemple, lorsqu'on les envoie « si t'es pas heureux, tu vas chez ton père »,« ah, si t'es pas heureux, tu vas chez ta mère », et qu'on les traite comme des balles de ping-pong, ça n'est pas sans effet. C'est-à-dire quand on les met en dehors, hein, lorsque les parents ont constitué un discours tel qu'il n'y a aucun lieu qui permette à un enfant de s'installer comme, même imaginairement, comme ce trait d'union. On voit très bien les ravages que ça occasionne chez, par exemple, les enfants adoptés, hein, ceux qui ont un problème pour se situer là-dedans, ceux qui doivent produire des représentations un peu des prothèses, des suppléances, parce qu'ils savent que... leurs parents, c'est pas ceux-là, qu'ils ont été accouchés sous X, Dieu sait quoi. Hein, ça a un effet extrêmement particulier. Bon. Mais l'objet cause du désir, il est là. Et si on montre un petit peu trop fort à quelqu'un que cet objet cause du désir, voilà, il est réellement un objet, on le traite comme un objet, il risque fort d'aller très très mal, ou en tout cas de souffrir d'une manière très particulière. Vous voyez ? Donc je trouve que ça, par exemple, c'est un objet, l'objet cause du désir, qui est inventé uniquement dans un contexte psychanalytique et dont la consistance, ça sert absolument à rien. Enfin, c'est un peu le, je reviens à mon intro. Ça sert absolument à rien d'aller fabriquer une fois de plus, n'est-ce pas, une espèce de comparaison entre Lacan et Spinoza ou des choses de ce genre. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça. Rend vrai ou faux des arguments qui sont internes à la psychanalyse. Sinon, eh bien, on fabrique du désir avec un D majuscule et on fait de Lacan un philosophe ou des philosophes, des gens qui préfigurent Lacan dans une sorte de purée culturelle ignoble, mais qu'on peut tartiner à l'infini. Hein. Bon, c'est moi qui vous remercie.